CFAQ.ca.
Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAQ.
CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
La présente capsule ne contient aucun conseil juridique. La présente capsule a été préparée avec l'aide d'étudiants en droit bénévole de la section Pro Bono Students Canada, Université de Sherbrooke. Les étudiants de Pro Bono Students Canada ne sont pas avocats ou notaires et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou un notaire.
Donc, lors des dernières capsules, on a pu travailler ensemble sur les normes du travail. Prochainement, dans les prochaines capsules, nous traiterons plutôt de la santé et de la sécurité du travail. Donc, il faut savoir qu'encore une fois, il y a plusieurs normes, plusieurs lois et règlements qui vont intervenir ici aussi. En matière de santé et sécurité du travail, il faut savoir que lorsqu'une personne fait face à un accident ou une maladie professionnelle, qu'on pourra regarder par la suite, dans le fond, les travailleurs vont principalement utiliser ce qu'on appelle la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc, on va principalement parler de cette loi-ci dans cette capsule-ci. Puis, il faut savoir que cette loi a pour objet, en fait, la réparation des lésions professionnelles et aussi des conséquences qu'elle va entraîner pour les travailleurs. Il faut savoir également que, un peu comme on a vu pour la loi sur les normes du travail, en fait, cette loi-là est une loi d'ordre public, donc on ne peut pas y déroger. Ce qui veut dire qu'on ne pourrait pas aller contre tout ce qui touche à l'indemnisation, le financement, les soins ou toutes les autres dispositions que cette loi-là va prévoir. On va simplement pouvoir donner des avantages plus généreux, mais on ne pourra jamais aller, dans le fond, on ne pourra jamais donner moindre. Également, il faut savoir que ce régime-là, c'est un régime d'indemnisation qui est sans faute. Donc, on va s'intéresser à ce que puisse subir le travailleur et non pas, dans le fond, quelle est la raison de ça ou qui en est responsable. Dans le même ordre d'idée, un travailleur ne va jamais être pénalisé parce que l'employeur n'aura pas respecté les exigences de la loi ou, se conformerait pas aux normes qui seraient prévues par la CNESST. Par exemple, un employeur qui ne déclarerait pas les salaires de ses travailleurs ne s'empêcherait pas aux travailleurs de faire une réclamation s'il se blessait, par exemple.
Juste comme ça, si jamais il y a du monde parmi vous qui connaissent pas c'est quoi la CNESST, juste dire c'est un diminutif de commission des normes de l'équité, santé, sécurité au travail. Donc, c'est vraiment ce qui va s'occuper de l'indemnisation, justement. Donc, comme on a pu voir dans les autres capsules, il est important de vérifier qui sont les personnes qui sont assujetties puis qui ne sont pas assujetties dans la loi. Donc, en matière d'accident de travail, maladie professionnelle, le travailleur doit être une personne physique, donc vous et moi, qui travaille pour un employeur moyennant une rémunération. On a parlé de la rémunération, justement, dans une autre capsule plus tôt. Donc, il se fait payer. Puis, ça peut pas être un bénévole. Donc, on s'entend, le bénévole, il est techniquement inclus parce que quand on est bénévole, on n'a pas d'argent en retour vu que c'est un petit service comme ça, moyennant rien. Par exemple, ça se peut. Il y a une possibilité, par exemple, que le bénévole soit inclus. C'est précisément lorsqu'il est inscrit de façon spécifique à la CNSST, puis qu'il participe à une activité il va avoir une certaine protection lorsqu'il rend des services à des membres, par exemple. S'il se blesse pendant son activité de bénévolat, ben évidemment, là, il va être protégé pour ses accidents de travail. Également, c'est pas toute relation avec un travailleur que le travailleur va être protégé par la loi. Donc, ce cas-ci, l'employeur va être une personne physique ou morale, donc une entreprise, par exemple, qui exploite ou utilise des services d'un travailleur à les fins de son établissement. Là, il est important, question de définition, de définir c'est quoi un établissement. Donc, en résumé, c'est un lieu pour produire des biens ou rendre des services. Cette notion-là, ça va exclure des activités purement personnelles. Donc, par exemple, je suis une madame qui engage un jardinier à la maison pour faire, à des fins personnelles, embellir mon jardin, mettre des fleurs, des orchidées, peu importe. Puis, par exemple, le jardinier, il se blesse pendant qu'il est en train de faire son travail de jardinage. Bien là, évidemment, la loi ne va pas s'appliquer puis ne va pas le protéger. Donc, le jardinier qui met des fleurs sur notre devant de maison pour l'embellir, s'il se blesse, ne pourra pas bénéficier d'une indemnité de la loi. La LATMP, donc Loi Accident de travail, maladie professionnelle, prévoit également d'autres dispositions particulières des personnes qui seraient considérées comme des travailleurs. Ainsi, le travailleur autonome, par exemple, j'ai moi-même mon entreprise, il n'y a personne qui travaille pour moi, par exemple. Puis je travaille exclusivement pour une seule et même personne, physique ou morale, donc une personne comme Madame Chose ou une entreprise, je vais être considérée comme un travailleur au sens de la loi et si je me blesse, je vais pouvoir être protégée puis indemnisée. Sinon, la loi prévoit aussi qu'un étudiant en stage qui est non rémunéré, sous la supervision de son établissement d'enseignement, donc par exemple l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal, etc., sera également considéré comme un travailleur au sens de la loi. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que au niveau de la loi sur les normes du travail, on avait dit qu'il n'était pas couvert. Mais le stagiaire, justement, non rémunéré en termes d'indemnisation à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, il va pouvoir bénéficier de la protection de la loi. Les personnes exclues de la notion de travailleur peuvent par ailleurs bénéficier d'une protection prévue par la loi si elles s'inscrivent de façon spécifique à la CNSST. L'inscription spécifique, on en avait parlé antérieurement pour les bénévoles, mais c'est ça. S'il y a d'autres personnes qui sont exclues de la notion de travailleur, celle-ci peut s'inscrire à CNSST justement pour bénéficier de la protection.
Donc maintenant, en fait, on va parler un peu des types de réclamations qu'on pourrait faire qui vont être la lésion professionnelle qui inclut l'accident du travail, maladie professionnelle et la récidive, rechute ou aggravation qu'on va traiter ultérieurement. Premièrement, il faut définir un peu c'est quoi une lésion professionnelle. Une lésion professionnelle, c'est une blessure ou une maladie qui va survenir par le fait ou à l'occasion du travail ou, bien entendu, comme on parlait tantôt, d'une maladie professionnelle ou d'une récidive, rechute ou aggravation. Il faut savoir que la lésion professionnelle peut aussi être une lésion qui est psychologique. Donc, c'est pas nécessairement juste une lésion physique. On peut penser, par exemple, à une personne qui aurait subi un choc, dans le fond, suivant un vol à main armée, une personne qui aurait de l'épuisement au travail ou, par exemple, ce qu'on voit à quelques reprises, un diagnostic qui résulterait du harcèlement psychologique. On avait vu aussi au niveau de la loi sur les normes du travail dans une précédente capsule qu'on pouvait faire des plaintes pour harcèlement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a un peu l'équivalent, si on veut, mais en matière de lésions psychologiques. Donc, il y a les deux recours qui sont possibles. Par rapport à la lésion professionnelle, en fait, heureusement pour le travailleur, il y a des moyens qui sont facilitateurs afin de faire une réclamation et faire reconnaître sa lésion professionnelle. Donc, il faudrait que, dans le fond, le travailleur démontre qu'il a subi une blessure. Il y a certains types de blessures aussi qui vont être considérées comme une lésion, qui était en train d'exécuter son travail et alors qui était à son travail. On peut prendre, par exemple, un professeur qui donne un cours à l'université. Le professeur glisse et se casse le bras. Dans le fond, le professeur est en train de donner un cours à l'université alors qu'il était à son travail. Il subit une blessure. Donc, on peut penser logiquement qu'il pourrait avoir subi une lésion professionnelle, dépendamment, bien entendu, là, des circonstances. Ça serait en fait à l'employeur ou à la CNESST à ce moment-là de démontrer que c'était pas le cas. Par exemple, si le professeur, en fait, finalement, on se rend compte que deux jours avant, il participait à un match de hockey, puis il s'est blessé à ce moment-là, on pourrait dire que finalement, c'était pas une lésion professionnelle parce que la blessure est arrivée dans un moment qui était personnel à lui et non quand il était au travail.
On a défini c'était quoi une lésion qui était professionnelle. Maintenant, c'est autour de l'accident de travail. Donc, ça, c'est défini comme étant un événement imprévu et soudain. Par exemple, une personne est serveuse dans un restaurant, elle va à la cuisine prendre un plat chaud, ressort avec le plateau, fonce dans une personne, c'est bouillante. Parce que le plat lui est tombé sur elle, donc on s'entend, c'était imprévu. Elle l'a pas planifié. C'est aussi attribuable à toute cause. Donc, c'est vraiment large tout ce qui peut être attribuable à un accident de travail. Aussi, un accident de travail, ça survient par le fait ou à l'occasion du travail. Donc, en gros, ici, le lien d'emploi doit demeurer. On a parlé du lien d'emploi dans une capsule antérieure. Donc, ce sera le cas, par exemple, si un employeur demande au travailleur d'assister à un colloque, par exemple, pour son travail, il est en marketing, il s'en va à un colloque. À Calgary, exemple, la personne se déplace, même si elle n'est pas physiquement sur le lieu de travail, par exemple, à Montréal, au bureau, elle est quand même à l'occasion de son travail. Donc, même si c'est à Calgary, c'est pour son travail qu'elle est au colloque. Donc, tout dépend de la nature des activités et du contrôle qu'exerce l'employeur. L'accident de travail, ça entraîne aussi une lésion professionnelle. Alex vient de décrire c'était quoi une lésion professionnelle plus tôt. Ici, c'est la causalité. Donc, l'événement doit avoir entraîné la survenance de la lésion, évidemment.
Donc, un peu comme on a vu avec l'exemple du professeur, dans le cas où il avait eu son accident lors d'un match de hockey, dans le fond, l'effet de causalité tombe. Là.
Exact. Sinon, lorsqu'il n'y a pas d'événement imprévu et soudain comme l'accident de travail, il peut quand même être possible pour le travailleur de démontrer qu'il a été victime d'une maladie professionnelle. Donc, c'est comme un accident de travail, sauf que c'est pas soudain, c'est quelque chose qui va se développer avec le temps ou à force de travail. La loi vient en aide aux travailleurs en instaurant des maladies pour des types de travail qui permettront de reconnaître qu'il a subi une maladie professionnelle. Par exemple, pour un travail mentionné dans la loi qui implique des répétitions de mouvements, par exemple, déplacer des boîtes tout le temps comme travail, ou une pression sur les périodes de temps prolongées qui causeraient, par exemple, une bursite ou une tendinite à force de faire des mouvements répétitifs chez un travailleur, on va considérer que ce dernier a subi une maladie professionnelle à première vue. Même si une maladie n'est pas prévue par la loi, le travailleur peut quand même prouver, démontrer qu'il a subi une maladie professionnelle de plusieurs façons. Notamment si la maladie est caractéristique du travail exercé, soit que plusieurs travailleurs d'un même milieu, d'un même environnement de travail ont développé ce type de maladie professionnelle. Et par exemple, on peut penser au cas des travailleurs des mines qui développent certaines maladies après plusieurs années de travail. Donc, à être dans un endroit qui est très sombre, à faire des mouvements qui sont répétitifs. Si on se rend compte que plusieurs travailleurs miniers, ouvriers ont des symptômes, comme je pourrais dire, qui sont vraiment similaires, on pourrait associer ça à une maladie professionnelle. Puis également, si la maladie est liée à des risques particuliers de ce travail-là, ben ça, c'est sûr que c'est un indice pour prouver justement qu'il y a une maladie professionnelle. Un exemple de cas fréquent qu'on retrouve vraiment souvent pour des maladie professionnelle, c'est vraiment de la surdité puis des maladies pulmonaires.
Merci, Max. En fait, la dernière forme de lésion professionnelle qu'on peut retrouver, c'est ce qu'on appelle la rechute récidive ou aggravation. Donc là, ça a l'air d'un grand mot. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une réapparition des symptômes de la lésion initiale. Donc, en gros, on peut donner un petit exemple. Une personne va se blesser, subit des traitements, puis finalement, bon, ça va bien, retourne au travail. Donc finalement, sa lésion est soit guérie ou en fait est stabilisée. Donc, elle n'a pas nécessairement de nouveaux symptômes, puis bon, ça reste stable. Quelques mois plus tard, sur cette même blessure-là, si on veut, dans le fond, il y a une réapparition des symptômes qui arrivent. En fait, on ne considérera pas que c'est une nouvelle lésion, mais c'est plutôt comme une réapparition de ce qui avait déjà lieu. En fait, à ce moment-là, le travailleur pourrait demander une nouvelle réclamation à la CNESST pour une rechute récidive ou aggravation. Puis donc, dans le fond, ce second événement-là, si on veut, qui n'est pas vraiment un second événement, mais qui est juste une réapparition des symptômes du premier événement, ça serait considéré comme une lésion professionnelle. Donc, en fait, on a pu voir dans cette capsule-là que, encore une fois, en matière de droit du travail, il y a certaines personnes qui sont assujetties au régime de santé et sécurité du travail et que ce n'est pas le cas pour tous. Donc, il faut vraiment bien s'assurer qu'on est visé par la loi. Et aussi que, justement, à cet effet-là, il y a plusieurs critères à respecter. On a aussi pu voir qu'il y avait certains types de réclamations qui étaient possibles de faire. Et donc, dans la prochaine capsule, on va vous parler des risques et des dangers. Donc, on vous remet.
La présente capsule ne contient aucun conseil juridique. La présente capsule a été préparée avec l'aide d'étudiants en droit bénévole de la section Pro Bono Students Canada, Université de Sherbrooke. Les étudiants de Pro Bono Students Canada ne sont pas avocats ou notaires et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. La présente capsule ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou un notaire.
Donc, en fait, lors de la dernière capsule, on a principalement traité de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc, en fait, on a vu que ça visait un régime d'indemnisation. Aujourd'hui, en fait, on va surtout parler du côté préventif de la santé et sécurité du travail avec la loi sur la santé et sécurité du travail. Donc, c'est principalement de ça qu'on va traiter. En fait, cette loi-là a pour effet l'élimination à la source même des dangers pour la santé et sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.
La loi établit également les mécanismes de participation des travailleurs, de leur association, par exemple le syndicat, ainsi que les employeurs, et leur association, justement, respective aux employeurs, à la réalisation de cet objet. Donc, de regarder pour les dangers qui ont rapport à l'emploi, puis de prévenir, justement, les dangers puis les accidents de travail.
Oui, mais dans le fond, ces éléments-là, portent sur les dangers et non, en fait, les risques qui pourraient atteindre la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. En fait, pourquoi est-ce qu'on parle des deux notions? C'est qu'il y a une distinction à regarder entre les deux.
Une grosse distinction.
parce qu'en fait, la loi va viser l'élimination des dangers et non les risques. Donc, elle va vraiment protéger seulement les dangers. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment distinguer les deux notions.
Faut pas se tromper. Non, ça peut vraiment avoir une incidence sur la réclamation plus tard.
Dans le fond, quand on parle de danger, on parle en fait d'une chose qui pourrait arriver avec une certaine probabilité de se produire. Donc, c'est vraiment plus important que la notion de risque. Tandis qu'au niveau du risque, c'est vraiment plus une possibilité. Donc, c'est ça. Donc, au niveau du risque, c'est vraiment une possibilité. Au niveau d'un danger, c'est vraiment une probabilité. Donc, ça prend vraiment une certaine chance que ça puisse se produire. Si on prend par exemple un travailleur qui serait dans un entrepôt, le travailleur à chaque matin entre dans l'entrepôt, il y a un risque que le toit s'effondre, mais est-ce que c'est probable? Non. Donc, le risque n'est pas un danger en soi parce que dans le fond, c'est pas nécessairement probable et ça très peu de chances d'arriver. Donc, la loi ne va pas protéger ces travailleurs-là pour cet élément-là. Si on prend un autre exemple, par exemple, je travaille dans un garage, puis en fait, les travailleurs doivent faire attention de ne pas laisser des taches d'huile sur le sol parce qu'ils pourraient glisser et se blesser. Ici, par contre, ça serait plus un danger parce qu'en fait, dans ce milieu-là, il y aurait une plus grande probabilité, en fait, que ça arrive. Et donc, ce ne serait pas un simple risque.
Donc, on comprend vraiment que c'est important de se fier aux circonstances du milieu, justement, pour regarder ce qui est plus un risque puis un danger.
Exactement.
Puis sinon, comme on l'a dit, là, on vient de donner deux exemples. Il existe vraiment une multitude, puis j'insiste sur le mot multitude d'exemples en santé et sécurité. Là, je vais vous en donner un dernier, là, mais ça peut vraiment... T'sais, on essaie vraiment de les rendre beaux, les exemples, puis pas si pire, mais vraiment, ça peut vraiment être des fois morbide un peu, là, les exemples. C'est pas beau, là. En santé et sécurité au travail. Mais un dernier exemple, ce serait, je suis une boulangère dans une petite boulangerie artisanale à Montréal. Beaucoup de détails, là, mais il arrive qu'à mon travail, des clients me demandent de couper leur miche de pain en tranches. Ça fait 1000 fois que je fais ça. Je suis tellement rendue une habituée de couper des miches de pain. Puis là, c'est la 1001 fois que je le fais, puis... Ce qui arrive, c'est que je me coupe, bon, profondément la main. Mais j'étais habituée de faire cet emploi-là, tu sais. C'est ça l'affaire, c'est que là, c'est un danger dans mon emploi que je me coupe la main comme je viens de me couper la main. C'est pas un risque. Cette machine-là, bon, c'est une possibilité dans mon emploi que ça arrive. Puis cette machine-là, cette manœuvre-là représente clairement un danger pour mon emploi. Donc, la loi va me protéger au niveau de ce genre de danger. On va parler dans une autre capsule plus précisément, mais mon employeur et moi, on a cette obligation d'identifier ce danger et par le volet préventif de la loi, comme on l'a expliqué plus tôt, de trouver des solutions pour y pallier et faire en sorte que le danger ne se reproduise plus. Là, j'ai dit que le danger ne se reproduise plus et ne se concrétise pas également. Ça, c'est vraiment des notions qui sont importantes. Donc, c'est vraiment une expression qui est importante, le fait que ce danger ne va pas se concrétiser parce que dans le fond, comme on l'a dit plus tôt, la loi sur la santé et sécurité du travail qu'on appelle... la LSST, ça protège au sujet des dangers. Cependant, c'est pas obligatoire que je me coupe la main profondément pour que je sois protégée. Donc, il est pas important que le danger se produise pour que je sois protégée, sinon c'est un peu poche, là. Faudrait que, genre, il arrive une catastrophe pour que je sois protégée puis indemnisée. Donc, c'est ça. C'est pas nécessaire que le danger se concrétise pour que la loi s'applique et il me protège, dans le fond. Phew.
En fait, maintenant, vu qu'on a un peu distingué la notion de risque et de danger, puis qu'on a déterminé que, en fait, c'est les dangers qui vont s'appliquer avec cette loi-là, en fait, on va déterminer un peu c'est quoi les types de dangers, puis donner des exemples. En fait, il faut savoir qu'il y en a 6. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les dangers chimiques. En fait, on peut penser aux matières dangereuses, matières combustibles, aux gaz, aux poussières, etc., qui pourraient causer des brûlures, une intoxication, des maux de tête, bon... pour en nommer quelques-uns. Également, il y a ce qu'on appelle les dangers physiques. Si on pense au bruit, à certaines températures froides ou chaudes au travail. Également, dans le fond, des micro-ondes, laser, bon, etc. Ce qui pourrait avoir, entre autres, sans tous les nommer, il pourrait y avoir détérioration de la vue, de la fatigue, du stress, un choc électrique, par exemple, une brûlure, des engelures. Des choses comme ça.
Sinon, il existe également. Le troisième danger qu'on peut voir, c'est les dangers biologiques. Donc, ça prend la forme de virus, par exemple, la COVID-19. C'est quelque chose qu'on va précisément traiter dans la prochaine capsule, puis c'est quelque chose dont on est témoins tous. Sinon, ça comprend également les moisissures, les bactéries, les plantes, les insectes, même les animaux. Ça peut avoir pour effet notamment des rhumes, grippes, hépatites, des maladies. De la rage si on se fait mordre par un animal pendant notre travail, tu sais. Le tétanos également. Sinon, le quatrième danger qu'on peut retrouver, c'est les dangers ergonomiques. Ça prend la forme de mauvaise posture, d'absence de micro-pause entre les manutentions fréquentes. Donc, c'est ça, si je lève des boîtes vraiment souvent puis je prends pas de pause, exemple. Mauvaise disposition des commandes, mouvement répétitif, travail debout. Puis ça a pour effet justement des troubles qui sont musculo-squelettiques.
Il y a aussi les dangers pour la sécurité. On peut penser aux machines dangereuses, des outils en mouvement, des planchers glissants, comme on en a parlé dans un des exemples plus tôt, un travail en hauteur ou des particules qui pourraient être projetées dans les airs. Dans le fond, ça pourrait avoir pour effet de causer, par exemple, des fractures, coupures, perforations, etc. Et finalement, il y a les dangers psychosociaux, assez connu au niveau, par exemple, une intensification du travail, par exemple, qu'il y aurait des contraintes de temps, un manque de maîtrise des tâches, de la violence, du harcèlement, des choses comme ça, qui pourraient avoir pour effet, entre autres, dépression, une surcharge mentale, des problèmes de sommeil, pour n'en nommer que quelques-uns.
Là, on a nommé les 6 types de dangers, soit les dangers chimiques, physiques, biologiques, psychosociaux, qui ont pour la sécurité puis ergonomique. Donc, dans le fond, petite mise en situation, pour toi, Alex, qui va me répondre à mes questions. Manon, c'est une infirmière à l'hôpital Rivière-des-Prairies, qui est un hôpital psychiatrique. Cette semaine, elle doit travailler beaucoup d'heures, donc 11 heures, le jeudi, pour vacciner les patients à risque contre la COVID-19. Peux-tu me dire quels sont les dangers identifiables?
Je vais essayer de réussir ton test. En fait, il y aurait entre autres des dangers psychosociaux parce que dans le fond, elle a une grande charge de travail, ce qui pourrait lui causer beaucoup de fatigue. Aussi, elle travaille avec des patients qui pourraient peut-être s'avérer violents. Sinon, il y a également des dangers biologiques, donc par la manipulation de vaccins contre la COVID. Puis aussi, il pourrait y avoir peut-être un risque que certains patients aient contracté la COVID.
Un danger. Alex, que certains patients ont contracté la COVID, t'es rentré dans le piège des dangers risques. Sinon, une autre mise en situation, ce serait que Raoul a un nouvel employé, il travaille de nuit dans un entrepôt IKEA et s'assure de recevoir des commandes de meubles et se doit d'aider à décharger les camions pendant la nuit. Les boîtes sont lourdes, il fait très sombre dans l'entrepôt, son employeur ne l'accompagnera pas aujourd'hui pour travailler à cause d'une urgence, il n'a pas réussi à trouver un remplaçant pour justement l'aider dans sa formation. Raoul travaillera alors avec 2 autres travailleurs qui sont anciens mais qui n'ont pas nécessairement le temps de l'accompagner, de le surveiller dans son apprentissage. C'est quoi les dangers, Alex, qui sont identifiables?
Avec la situation, je dirais qu'il y a tout d'abord un danger physique avec la baisse de vigilance parce que Raoul travaille la nuit. C'est pas tout le monde qui sont des oiseaux de nuit comme moi. Aussi, il peut foncer dans un mur ou de la machinerie, donc il pourrait mal voir dans l'entrepôt, on sait jamais. Il y aurait aussi des dangers ergonomiques, donc il pourrait y avoir des maux de dos à cause des mouvements répétés ou la lourdeur des boîtes, aussi une mauvaise posture à cause de justement la lourdeur des boîtes. Également, finalement, je dirais vite comme ça, il y aurait des dangers psychosociaux parce que si jamais il y a un manque de maîtrise des tâches, Raoul n'a pas nécessairement été assez formé, donc il pourrait être stressé envers ses collègues, puis bon, ça pourrait entraîner des dangers de d'autres natures. On a pu voir lors de cette capsule-ci qu'il existe une distinction importante entre les risques et les dangers en matière de santé et sécurité du travail et que c'est important de connaître la distinction parce que la loi protège juste les dangers. C'est ça. C'est important de bien les identifier parce qu'ils vont viser des formes et des conséquences distinctes comme on a pu voir aujourd'hui. Puis, c'est ça. Donc, la prochaine capsule, on va regarder tout ce qui touche les droits et obligations en matière de santé et sécurité du travail qui pourraient exister, en fait, pour le travailleur et l'employeur.
Donc, juste pour faire une petite introduction, on tient à vous dire que la présente capsule ne contient aucun conseil juridique. Ça a été préparé, par nous, cette capsule-là. On est des étudiantes en droit qui sont bénévoles de la section pro bono de l'Université de Sherbrooke et on n'est pas des avocats, donc on n'a vraiment pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. C'est juste une présentation générale de certaines questions juridiques qu'on va vous exposer aujourd'hui. Et si vous avez besoin spécifiquement de conseils juridiques, on vous conseille à ce moment-là de consulter directement un avocat ou une avocate.
En matière de santé et sécurité au travail, il existe divers droits et obligations pour les travailleurs ainsi que pour l'employeur. Le Code civil, bon, on ne va pas rentrer dans la loi en détail, mais bon, le Code civil prévoit en termes généraux que l'employeur doit prendre des mesures appropriées pour gérer la santé, sécurité et la dignité du salarié. C'est un gros mot, mais bon, il faut qu'il le fasse. C'est la loi sur la santé et sécurité du travail, LSST, qui fournit le cadre le plus précis entourant cette protection de la santé, sécurité, dignité du travailleur. Et c'est justement, dans cette capsule, les droits et obligations seront justement abordé. Alex va alors débuter par vous parler d'un droit qui est super important, puis j'insiste, super important pour le travailleur, soit le droit de refus d'exécuter un travail.
Oui, ben en fait, faut savoir qu'un travailleur a en tout temps le droit de refuser d'exercer un travail qui pourrait l'exposer à un danger par rapport à sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou faire la même chose envers une autre personne. En fait, il est important de savoir que le droit de refus fait référence à un danger. On en a parlé lors d'une dernière capsule. Le danger n'est pas un risque, donc on vous réfère à cette capsule-là pour en fait comprendre la distinction entre les deux notions. Pour exercer le droit de refus, en fait, le travailleur doit avoir des motifs raisonnables de croire que l'exécution du travail qu'il va faire va l'exposer ou exposer une autre personne à un danger. Quand on parle de motifs raisonnables, en fait, on parle d'une personne qui serait une personne raisonnable qui serait placée dans les mêmes circonstances et qui considérait qu'il y a un danger. On peut penser à l'ancienne notion du bon père de famille.
Qui n'existe plus.
Exactement, c'est bien important de le préciser. Et donc, même si c'est une analyse qui est comme plus objective, si on veut, il faut quand même considérer qu'on va mettre la personne dans les mêmes circonstances. Donc, on va quand même tenir compte des caractéristiques du travailleur. On peut penser, par exemple, à l'expérience de travail, donc quelqu'un qui aurait plus ou moins de l'expérience de travail. Il faut faire attention, par contre, parce qu'on ne peut pas toujours demander le droit de refus. Ça dépend vraiment des circonstances. Par exemple, un travailleur qui serait soumis à des conditions de travail normales puis qui aurait une condition personnelle particulière, ça ne veut pas dire qu'il pourrait nécessairement soumettre le droit de refus. Par contre, l'employeur a toujours une obligation d'accommoder le travailleur qui aurait, par exemple, un handicap en vertu de la charte. Donc, c'est vraiment important de vérifier ces informations-là et dans le fond, des caractéristiques de la charte qui vont entourer l'obligation d'accommodement. Également, pour exercer le droit de refus, il faut que le travailleur le dise au moment opportun qu'il ne veut pas exécuter la tâche parce qu'il exerce son droit de refus. Donc, il va aviser son supérieur immédiat ou sinon un représentant de l'employeur. Si le superviseur est aussi d'avis qu'il y avait un danger, ben il va cesser de demander l'exécution de la tâche en question. Par contre, s'il est plutôt d'avis qu'il n'y avait pas de danger, il va falloir faire intervenir le représentant à la prévention. Si, par exemple, le représentant n'est pas d'accord avec le travailleur, il y aura alors possibilité de faire intervenir un inspecteur de la CNESST qui, lui, va se déplacer sur les lieux et déterminer si le droit de refus s'appliquait dans ce cas-là. Ensuite, dans le fond, la décision qui va être rendue par l'inspecteur va avoir un effet immédiat. Donc, si par exemple l'inspecteur juge que finalement le travailleur avait raison de demander le droit de refus puis que ça s'appliquait bel et bien, l'employeur pourrait plus demander au travailleur d'exécuter la tâche en question, même si l'employeur n'était pas d'accord. L'employeur, par contre, pourrait en fait entreprendre des démarches pour contester ça, mais on n'entrera pas dans les détails ici. Également, par contre, il existe une exception au droit de refus. Le travailleur ne pourrait pas demander de refuser d'exécuter un travail dans les cas où, par exemple, son refus mettrait en danger la vie, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'une autre personne. Ça serait un petit peu contradictoire. On peut voir aussi que le droit de refus pourrait ne pas s'appliquer dans des conditions où des conditions qui seraient semblables à celles normales d'exécution du travail. Si on pense, par exemple, à un pompier, c'est sûr que le pompier est dans des conditions particulières, là, donc il ne pourrait pas demander de refuser d'exécuter son travail parce qu'il y a un feu, parce que, bon, on s'entend que c'est un peu l'objectif du pompier.
Merci, Alex. Abordons maintenant le droit de retrait préventif. Il y en existe trois types. Donc, le premier, qui est celui qui est ouvert à tous, celui en cas de grossesse, et celui en cas d'allaitement. Donc, le retrait préventif qui est ouvert à tous s'applique lorsqu'un contaminant est identifié comme entraînant un danger pour le travailleur. On en a parlé dans une autre capsule, c'était quoi le danger versus le risque, etc. Donc ça, c'est pour vraiment se spécifier. Il faut vraiment aller revoir cette capsule-là si vous vous demandez vraiment ce qu'est un risque et tout, puis vous voulez effectuer un retrait préventif de cette sorte. Le deuxième retrait préventif, c'est pour la femme qui est enceinte et ça s'applique lorsqu'il y a un danger pour l'enfant à naître ou un danger pour la travailleuse qui est enceinte à cause de son état de grossesse. Elle peut alors demander d'être affectée à d'autres tâches qui n'entraîneront pas de tels dangers et qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir. C'est sûr, on ne la mettra pas dans une tâche qui c'est pire pour sa santé, sa sécurité au travail. On va la mettre dans quelque chose qui est capable de faire. Dans le cas où l'employeur ne veut pas ou ne peut pas réaffecter la travailleuse enceinte, elle sera placée en arrêt de travail puis elle va bénéficier d'une indemnité de remplacement de revenus. Donc, elle va se faire payer quand même si elle ne peut pas travailler. Pour ce qui est de ce mécanisme, s'applique lorsque la travailleuse doit fournir un certificat qui atteste que les conditions de travail pourraient mettre en danger l'enfant à naître ou la travailleuse à cause de la grossesse. Donc, vraiment fournir ces certificats pour être en mesure de soulever ce retrait préventif. Sinon, le dernier retrait préventif, ça s'applique lorsqu'il y a un danger de contamination du lait maternel. Donc ça, ça vise vraiment l'enfant. Donc le danger pour la mère en soi, c'est pas déterminant. Là, vraiment, comme je viens de le dire, ça vise vraiment l'enfant, le danger que justement le lait se contamine puis aille jusqu'à la bouche de l'enfant. Donc le cas échéant, il y aurait retrait préventif si c'est le cas. Peu importe le type de retrait préventif, le droit au retrait est applicable pendant toute la durée du danger. Donc c'est sûr que si le danger disparaît pendant qu'il travaille, ben là, comme tu peux plus vraiment le soulever, là, c'est sûr. Donc peu importe là, le trois, que ce soit le retrait préventif qui est ouvert à tous en cas de grossesse ou pour le lait maternel, ben là, c'est sûr qu'il faut vraiment le soulever pendant la durée du danger. Le travailleur a aussi des obligations en matière de santé et sécurité au travail. Il doit prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable, prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité, son intégrité physique et veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'autrui. Donc, c'est vraiment pour soi puis pour les autres. Donc, dans certains cas, il va devoir se soumettre à des examens de santé. Enfin, il va devoir participer à l'identification et à l'élimination des risques. Comme je l'ai dit, la loi sur la santé et sécurité au travail a un volet préventif. Donc, c'est vraiment le but d'identifier les risques, des dangers, puis l'élimination des dangers à la source sur le lieu de travail, puis collaborer avec le comité de santé et sécurité au travail, bon, s'il y en a un. La loi sur la santé et la sécurité au travail, ça rappelle également que le travailleur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger, c'est un mot qu'il va répéter souvent dans cette capsule, santé, assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur, donc c'est vraiment nécessaire que ça se fasse. Certaines normes plus précises sont prévues, mais l'important, c'est vraiment de garder en tête que cette obligation, c'est une obligation qui est générale pour l'employeur comme pour l'employé, le travailleur. En effet, comme il s'agit d'une obligation qui est dite large, il ne faut pas nécessairement qu'un employeur contrevienne à des normes plus précises pour contrevenir à son obligation de protéger santé, sécurité, intégrité physique du travail. Donc, ce que je veux dire, dans le fond, c'est pourquoi on voit parfois des employeurs qui adoptent des politiques en matière de santé et sécurité au travail. Toutefois, l'employeur, il a l'obligation d'établir et de mettre en application un programme de prévention. Ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui doit être fait en entreprise. La LSST, la loi, prévoit que l'employeur doit veiller aussi à ce que le travailleur n'exécute pas son travail lorsque son état représente un danger pour la sécurité, la santé, l'intégrité physique ou celle d'autrui. Donc, on pourrait également penser à un travailleur qui aurait les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue. Bon, shocking. C'est évident que, bon, l'employeur va pas dire « reste au travail pendant que t'es intoxiqué ». Non, tu sais, clairement, c'est pas bon pour la santé, pour sa santé, sécurité au travail puis celle des autres également.
C'est pas très éthique, non.
Non, effectivement.
En fait, l'employeur va aussi avoir une obligation d'information en matière d'accident. Donc, l'employeur va avoir 24 heures pour informer la CNESST et faire un rapport écrit quand il va avoir un accident du travail qui pourrait entraîner, entre autres, le décès d'un travailleur, la perte d'un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important. Donc, on ne souhaite pas du tout ces choses-là, mais dans le cas où ça arrivait, c'est l'obligation que l'employeur a. Donc, il était possible, lors de cette capsule, en fait, de voir qu'il y avait des droits et des obligations qui étaient propres aux travailleurs et à l'employeur en matière de santé et sécurité du travail. Donc, on peut penser un peu au droit de refus ou au droit au retrait préventif dont on a parlé plus tôt. Lors de la prochaine capsule, on va parler du processus de réclamation en matière de santé et sécurité du travail. Donc, on vous retrouve à la prochaine capsule. Merci.
La présente capsule ne contient aucun conseil juridique. Ça a été préparé, en fait, par nous, cette capsule-là. On est des étudiantes en droit qui sont bénévoles de la section pro bono de l'Université de Sherbrooke et on n'est pas des avocats, donc on n'a vraiment pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. C'est juste une présentation générale de certaines questions juridiques qu'on va vous exposer aujourd'hui. Et si vous avez besoin spécifiquement de conseils juridiques, on vous conseille à ce moment-là de consulter directement un avocat ou une avocate.
La capsule va précisément parler de la réclamation en matière de santé et sécurité au travail lorsqu'un accident professionnel ou la constatation d'une maladie professionnelle en lien avec le travail. Bon, la distinction entre les deux a été abordée dans une capsule antérieure. Donc, si vous ne savez pas la différence entre les deux, je vous conseille fortement d'aller y retourner. Donc, tout d'abord, le travailleur victime d'une lésion professionnelle doit aviser son employeur le plus tôt possible. Ça permet justement de démontrer le lien causal entre la lésion et l'événement. Donc, plus le travailleur attend, évidemment, bon, d'autres causes pourront être envisagées sur la source de la lésion. C'est sûr que, bon, petit conseil d'amis, faites-le le plus vite possible, on s'entend, là, parce que c'est ça.
Ben oui, en fait, si on repense à l'exemple qu'on a énuméré dans une autre capsule, en fait, du professeur qui se brise le bras, ben si, par exemple, le professeur attend un certain délai, ben là, ça va être difficile de déterminer si la cause était vraiment reliée, en fait, à la blessure qu'il y a eu au travail ou à une autre cause, comme par exemple le cas du hockey, en fait, du match de hockey, où finalement la blessure venait de ce match-là et non d'une blessure sur le lieu de travail.
Donc, dans le cas d'un accident de travail, si celui-ci a causé une incapacité supérieure, donc par exemple quelque chose de vraiment grave, le travailleur doit remettre une attestation médicale à son employeur justement pour attester ça. À partir de ce moment-là, l'employeur devra obligatoirement aviser la CNSST de l'événement et payer les 14 premiers jours d'absence du travailleur. Il est important pour le travailleur de faire une réclamation dans un délai de 6 mois à partir de la lésion, auquel cas il pourrait se l'avoir refusé. Donc, si le travailleur fait une demande hors délai, il devra justifier ce défaut par un motif raisonnable. Donc, c'est possible quand même de faire une demande hors délai plus que le délai de 6 mois. C'est juste que faut un délai raisonnable pour que la CNSST relève le travailleur de ce défaut. Ici, il faut savoir que le motif doit quand même être raisonnable et que c'est pas n'importe quel motif qui est accepté. Donc, par exemple, le fait que le travailleur dise « Ah ben, je savais pas qu'il y avait un délai à respecter », ben on s'entend, c'est pas un motif qui se dit raisonnable. T'sais. Ici, on vise pas des maladies professionnelles puisque, comme on l'a expliqué plus tôt, une maladie professionnelle, ça peut survenir après plusieurs années puis vraiment plus tard qu'on le pensait. Donc, pour la maladie professionnelle, la loi va plutôt prévoir que c'est toujours un délai de 6 mois, mais c'est à compter de la connaissance par le travailleur que cette maladie est reliée à un travail qu'il a exercé. Par exemple, je suis quelqu'un qui a travaillé pendant plusieurs années dans des entreprises où il y avait beaucoup de bruit. Donc, le bruit était vraiment un élément présent dans le travail. Puis, je suis un jour chez mon médecin pour un examen annuel. Puis, c'est là qu'il m'annonce que je fais un type de surdité. Mais là, si j'apprends ça le 12 mars 2021, par exemple, je vais avoir 6 mois à partir de cette date-là et non à partir du moment où ma surdité s'est développée, par exemple. Donc ça, c'est vraiment important à faire la distinction, par exemple, le différent 6 mois, tout dépendant de si on a un accident de travail ou si on a une maladie professionnelle. Une fois la réclamation faite par le travailleur à la CNSST, celle-ci devra la traiter et l'analyser conformément à la loi pour déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle. Il faut savoir que la CNSST elle a la compétence exclusive pour rendre toute décision eu égard à la loi. Donc, pour toute question autre que la question médicale, la CNSST va rendre une décision et le processus décisionnel va suivre les étapes suivantes qu'Alex va nous mentionner.
Ben, dans le fond, une fois que la CNSST va avoir pris sa décision, ben, comme on l'a dit, en fait, il va être possible pour le travailleur ou même l'employeur de contester la décision. Donc, et ça sera une demande qui va être écrite et qui devra être faite dans les 30 jours où les parties vont avoir eu notification, en fait, de la décision. Donc, ils vont savoir qu'il y a eu une décision puis qu'elle va être rendue. Il faut savoir que, en fait, même si le processus de chaque cause va différer, il y a quand même certains éléments qui peuvent revenir. Donc, il y a certains processus plus courants qu'on voit dans ce... dans ces réclamations-là. En fait, en premier lieu, le travailleur va rencontrer son médecin, puis le médecin va soumettre un diagnostic. Par la suite, si l'employeur n'est pas d'accord avec le diagnostic, il pourra faire évaluer le travailleur également par son médecin. Puis, il arrive parfois, en fait, que les deux diagnostics, en fait, il arrive fréquemment que les deux diagnostics sont pas nécessairement les mêmes. Et la CNSST peut, si elle veut, soumettre le dossier au bureau d'évaluation médicale, qu'on appelle le BEM, afin de déterminer le diagnostic du travailleur qui va servir de base à l'évaluation de la réclamation du travailleur. Ça va surtout être le cas justement quand il y a des distinctions là, dans les rapports médicaux. Donc, le BEM en question va avoir pour mandat d'évaluer l'état de santé du travailleur, puis il va statuer aussi sur les divergences d'opinion qui existent, dans le fond, entre le médecin du travailleur et le médecin qui a été désigné par l'employeur ou même par la CNSST. Donc, il va avoir plusieurs éléments à considérer, puis dans le fond, le bureau d'évaluation médicale va vraiment statuer sur chacun des éléments pour arriver à un rapport complet et une décision, en fait, sur ce qui est considéré comme base pour la réclamation du travailleur. Puis, en fait, il faut savoir que la CNSST est liée par le diagnostic qui va être établi par le BEM, contrairement au tribunal administratif du travail si le dossier se rend plus loin. Donc, c'est à partir de ce diagnostic-là que la CNSST va faire son analyse et que, en fait, le processus va se poursuivre. Ensuite, une fois que la décision va être rendue par la CNSST, en fait, c'est ça, il y a une possibilité de demande de révision, puis la révision va se faire à la révision administrative de la CNSST. Donc, en fait, c'est un peu, c'est dans le fond, c'est la CNSST quand même qui étudie le dossier, mais c'est juste d'autres. En fait, c'est un réviseur qui va faire la décision, va reprendre le dossier, puis mm-hmm. va décider s'il est d'accord ou non avec ce que la CNSST a rendu précédemment. Puis, dans le fond, les parties vont pouvoir présenter leurs arguments, puis le dossier va être étudié, et ensuite, la décision va être prise. Par la suite, les parties vont pouvoir, dans les 45 jours, de la notification de la décision. Donc, une fois que les parties ont su que la décision était rendue, qu'ils ont lu la décision, ils pourront, dans les 45 jours, s'adresser au tribunal administratif du travail pour faire appel à la décision, si jamais ils le souhaitent. Encore une fois, il faut rappeler que les délais sont ici très importants. Donc, encore une fois, il y a un délai à respecter. Puis, si jamais il y a un problème au niveau du délai, ça prend vraiment un motif qui est raisonnable et non juste « je n'ai pas lu les papiers, je ne savais pas qu'il y avait un délai, etc. » Ça ne fonctionnera pas malheureusement. Devant le tribunal administratif du travail, en fait, ça va être une audition un peu comme on peut retrouver régulièrement dans un palais de justice, si on veut, mais ça va être dans un autre lieu. Puis, il va y avoir les règles qui s'appliquent, là, dans le fond, les règles de preuve, de procédure, qui sont propres au tribunal en tant que tel. Mais il faut savoir aussi ce qui peut être pertinent, c'est qu'il y a un processus de conciliation qui existe. Puis le tribunal, dans le fond, le favorise. C'est très encouragé comme processus. Et il y a beaucoup de dossiers qui vont se régler de cette façon-là. Donc, pas beaucoup de dossiers vont se rendre nécessairement en audition. Par contre, si jamais c'était le cas, qu'il y avait une audition quand même, le tribunal va rendre sa décision. Puis, dans le fond, les parties vont avoir ces décisions-là à regarder. Il faut savoir que les décisions du tribunal, selon la loi instituant le tribunal administratif du travail, les décisions sont sans appel, sont finales. Donc, en soi, techniquement, on ne peut pas nécessairement demander une révision de cette décision-là. Les seuls cas, dans le fond, c'est les motifs qui vont être prévus à la loi, à cet effet-là, ou en fait, ce qu'on peut retrouver généralement pour des motifs de révision là, en matière de tribunaux supérieurs. Là, donc, on pourrait peut-être, dans certains cas, s'adresser à la Cour supérieure. Mais c'est ça, dans le fond, on ne rentrera pas dans les détails pour ces questions-là. C'est juste, dans le fond, de savoir que, bon, en général, ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver fréquemment. Dans la capsule d'aujourd'hui, on a pu voir, en fait, comme on vient d'en parler, qu'il y avait un processus de réclamation qui est assez particulier en matière de santé et sécurité du travail. Donc, tu sais, pour toute autre question, bien entendu, si jamais il y a un dossier, c'est de s'informer à cet effet-là aux personnes, qui pourront aider à comprendre le processus. Il y a plusieurs étapes, plusieurs délais à respecter pour qu'une demande soit traitée. Donc, il faut vraiment bien s'informer à cet effet-là. On a aussi pu voir qu'il y a plusieurs paliers lors d'une réclamation. Donc, on passe par la CNSST, on passe par la révision administrative de la CNSST, par le tribunal administratif du travail. Donc, oui, ça peut avoir l'air un peu gros tout ça, mais finalement, une fois à l'intérieur, là, ça, dans le fond, c'est simple de s'y retrouver. Donc, c'est ça. Donc, pour la prochaine capsule et la dernière qu'on va parler en matière de santé et sécurité du travail, on aura un sujet un peu spécial et d'actualité. Donc, on ne pouvait pas passer à côté. Bien entendu, on va parler de la COVID-19. Donc, merci beaucoup.
La présente capsule ne contient aucun conseil juridique. Ça a été préparé, par nous, cette capsule-là. On est des étudiantes en droit qui sont bénévoles de la section pro bono de l'Université de Sherbrooke et on n'est pas des avocats, donc on n'a vraiment pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. C'est juste une présentation générale de certaines questions juridiques qu'on va vous exposer aujourd'hui. Et si vous avez besoin spécifiquement de conseils juridiques, on vous conseille à ce moment-là de consulter directement un avocat ou une avocate.
En raison de la pandémie, la santé et la sécurité des travailleurs est nettement plus à risque qu'à la Pour ce faire, la CNSST a mis en place plusieurs outils et guides pour aider les employeurs à bien s'adapter aux mesures sanitaires en place et préserver la santé et sécurité de leurs employés. En effet, il y a ce que la CNSST appelle un guide de normes sanitaires en milieu de travail COVID-19. Bon, ça, c'est ce que vraiment principalement les employeurs doivent les employeurs et les employés doivent regarder justement pour s'adapter à ce qu'est la COVID. Donc, plus précisément, ce guide va soutenir la prise en charge de la santé et sécurité du travail, donc SST, dans les milieux de travail. Les informations contenues dans ce guide sont tirées des recommandations intérimaires produites par le Réseau de santé publique en santé au travail et l'Institut national de santé publique du Québec, et précisément les attentes de la CNSST en lien avec celle-ci. Il est certain que les mesures proposées doivent être adaptées dans les différents secteurs en fonction des spécificités pour garantir que les activités puissent répondre et continuer dans les conditions les plus sûres et les plus saines possibles dans le contexte de la COVID-19.
Donc, en fait, on va présenter un peu les grandes lignes de ce guide-là. Tout d'abord, il y a une prise en charge de la santé et de la sécurité du travail qui doit être faite. La prise en charge va viser, en fait, à mettre en place des mesures nécessaires pour respecter les obligations légales de l'employeur, donc identifier, corriger, contrôler les dangers et aussi favoriser la participation des travailleuses et des travailleurs dans cette démarche de prévention-là. Il faut savoir que la collaboration entre l'employeur et le personnel sont, dans le fond, importantes pour favoriser une prise en charge efficace. Dans le fond, les représentants des travailleuses et des travailleurs vont aussi identifier les situations à risque au quotidien, vont aussi évaluer la faisabilité des actions envisagées et favoriser l'implantation dans le milieu. Ils peuvent aussi participer à la diffusion de l'information auprès de leurs collègues, puis analyser la possibilité que les rencontres se fassent selon un horaire ajusté au contexte et au milieu de travail. Par la suite, après avoir identifié les dangers qui vont être liés à la contamination dans le contexte de la COVID-19, il faut bien entendu mettre en place les mesures de prévention qui vont être recommandées par la santé publique et les spécialistes en santé et sécurité du travail. Une fois que ces mesures-là vont avoir été choisies et mises en place, bien entendu, il faut s'assurer qu'ils vont demeurer efficaces. Également, en plus d'appliquer les mesures de prévention qui sont spécifiques à la COVID-19, ben, l'employeur doit quand même se questionner sur les autres dangers qui sont liés à ses activités habituelles, aux nouvelles activités et aux activités ponctuelles. Donc, par exemple, la réorganisation du travail, la remise en marche des machines, l'entretien, etc. Également, il faut savoir que la CNSST fournit des aides-mémoires qui peuvent être utiles et des listes de vérification pour accompagner les milieux de travail dans la prise en charge de la santé et la sécurité du travail. Donc, ça peut être intéressant de les regarder.
En ce qui concerne les dangers biologiques, le guide définit des modes de transmission du virus et comment le prévenir en milieu de travail, pardon. En ce qui concerne le mode de transmission, le coronavirus infecte habituellement le nez, la gorge, les poumons. Je sais que vous en avez entendu parler 1000 fois, surtout dans le campus universitaire, mais c'est important d'en parler. Il se propage le plus souvent par des gouttelettes émises par une personne infectée, symptomatique ou non symptomatique, lorsque cette personne tousse ou éternue, par exemple. Ils peuvent aussi se propager par les mains contaminées. Ainsi, par exemple, se toucher les mains, la bouche, le nez, les yeux après avoir eu contact, bon, c'est pas la meilleure des idées. Puis c'est ça, c'est une manière de développer la COVID-19. Les coronavirus vont également subsister quelques heures sur les objets inertes à surface sèche, puis quelques jours sur les objets inertes à surface humide. Pour ce qui est des mesures de prévention, l'employeur doit procéder à une identification des dangers de la transmission de la COVID dans son milieu de travail. À défaut de pouvoir éliminer les dangers à la source, il doit viser à au moins les diminuer puis à les contrôler. Il doit identifier les tâches durant lesquelles les travailleurs et les travailleuses peuvent être exposés au virus. Des mesures de prévention peuvent être appliquées pour diminuer les risques de transmission de la COVID. Le guide vient également expliquer que les personnes symptomatiques pourraient faire partie de la chaîne de transmission du virus, ce qui fait qu'il faut les exclure du lieu de travail. Donc, le guide établit que la procédure à tenir compte pour éviter que la chaîne de transmission se développe à l'intérieur d'un milieu de travail, ce qui serait comme un peu la catastrophe. Il ne faut pas que ça arrive. Il y a également un volet pour définir la distanciation sociale. On sait c'est quoi, c'est comme, mais je vais le dire quand même. Soit de garder la mesure, dans la mesure du possible, le 2 mètres. On vient également parler de promouvoir le plus possible le télétravail lorsque, justement, le travail le permet. Alors que les éléments, étaient plutôt préventifs, le guide prévoit également un volet pour les dangers psychosociaux reliés au travail en tant que COVID-19. Ce qu'Alex va nous parler plus précisément.
C'est sûr que nous, on n'est pas malheureusement des professionnels, mais on va vous indiquer ce que le guide prévoit à cet effet-là. Il y a effectivement des dangers psychosociaux liés au travail et donc il y en a également en matière de COVID-19. Il faut savoir que, bon, bien entendu, la pandémie peut être une source non négligeable de stress, non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les employeurs, les clients, les fournisseurs, etc. Dans le contexte du télétravail, il faut dire que l'employeur n'est pas sur place pour vérifier l'état mental de ses employés. Donc, il doit être peut-être plus vigilant et porter attention plus particulièrement à la santé psychologique de ses employés. Donc, il doit garder l'œil ouvert à des potentielles situations de cyberharcèlement, ce qu'on retrouverait peut-être moins en cas de travail régulier. Et donc, c'est ça. Donc, il doit faire un peu plus attention considérant que le contexte est différent. Le climat de travail aussi primordial dans le contexte de la pandémie. Bien entendu, une attention particulière doit être apportée pour maintenir ce contexte-là de manière saine. Les relations harmonieuses sont à favoriser entre l'employeur, les travailleurs et travailleuses et la clientèle dans la mesure du possible. Par exemple, l'employeur pourrait aussi créer des moyens d'échange pour favoriser le soutien social, surtout si les tâches sont justement faites en télétravail, ce qui peut être plus difficile en général. Également, l'employeur doit être à l'écoute des préoccupations des membres de son personnel, avec respect bien entendu. Il devrait les encourager à présenter les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, mettre en place aussi, si possible, des mesures de conciliation famille-travail. La mise en place de diverses mesures de prévention dans le milieu de travail et une bonne communication de l'information vont pouvoir permettre à l'employeur de répondre aux préoccupations de chacun et donc aussi de rassurer les travailleurs et de réduire, par exemple, leur anxiété à ce niveau-là.
Les obligations légales en santé et sécurité au travail, autant pour l'employeur que pour les travailleurs-travailleuses, doivent être appliquées dans le contexte de la COVID-19. Donc, l'employeur a l'obligation de protéger la santé et d'assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs de base. La loi sur la santé et la sécurité du travail exige aussi que l'employeur prenne toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Pour ce faire, il doit, entre autres, mettre en œuvre des méthodes d'identification, de correction, de contrôle, de danger. Dans le contexte de la COVID-19, l'employeur doit s'assurer que les mesures de prévention habituellement mises en œuvre sont toujours adaptées, en plus de celles pour la COVID-19. Sinon, il doit les modifier pour protéger les travailleurs et les travailleuses contre les risques de contamination. L'employeur doit également les informer sur les risques liés à leur travail, y compris ceux liés à la COVID-19. J'ai dit risque, mais je voulais dire danger. Il doit également leur assurer la formation, la supervision et l'entraînement approprié afin que tous aient l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui leur est confié. Pour ce qui est des travailleurs, travailleuses, ces derniers ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé, leur sécurité ou leur intégrité physique et veiller à ne pas mettre en danger, justement encore les mêmes mots, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail. Pour ce faire, ils doivent respecter les règles et les mesures mises en application dans le contexte de la COVID au même titre, que les autres règles appliquées dans le milieu de travail de base, là, de manière habituelle. La travailleuse ou le travailleur doit également participer à l'élimination des dangers. Donc, s'il voit des dangers ou il y a des suggestions à cet égard, il doit faire part au comité de santé et sécurité au travail, s'il y en a un, à son supérieur ou à un représentant de l'employeur. Alex et moi, on a jugé qu'il était pertinent de vous parler des mesures appropriées en termes de la COVID, mais c'est sûr que si vous avez un point d'interrogation par rapport à ça, je vous invite à aller voir les ressources qui sont les plus appropriées, comme par exemple le guide de la CNSST ou l'INSPQ.